Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Hervé Cotin, professeur à l'Université Paris-Est Créteil, chercheur au laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques et membre de la Société française d'exobiologie. Hervé Cotin, bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons aborder aujourd'hui avec vous une question qui est absolument fascinante. C'est peut-être la plus fascinante question scientifique qui soit. La vie a-t-elle pu apparaître ailleurs que sur la Terre ? À une époque, on l'a cru la trouver sur Mars, hein, la vie. Je me souviens qu'en 96, une équipe américaine avait annoncé avoir découvert un petit quelque chose dans une météorite martienne. On songe la chercher sous les glaces d'Europe, on espère même la découvrir sur les planètes extrasolaires, et finalement, aujourd'hui, nous sommes en novembre 2010, selon l'état actuel de la recherche, quelle est, pour vous, la meilleure cible, le meilleur endroit où chercher la vie dans l'univers ?
Alors, chercher la vie ailleurs que sur la Terre, c'est effectivement une vaste question. Si poser la question pour savoir où on a le plus de chances de trouver la vie ailleurs que sur la Terre, il y a deux grandes cibles. Il y en a une qui est à portée de main dans le système solaire, c'est Mars. Mars, on peut y aller avec une quantité d'instruments assez performants. On a même l'espoir de ramener des échantillons qu'on pourra décortiquer dans nos laboratoires. Donc sur Mars, à une échelle de quelques années, quelques dizaines d'années, on aura beaucoup d'informations très poussées pour savoir si la vie a pu apparaître sur Mars ou pas. Ensuite, l'autre grand champ d'exploration, ce sont les planètes qu'on commence à découvrir autour d'autres étoiles. Et là, alors, on peut pas y aller. On peut pas envoyer des instruments, faire des analyses, on peut encore moins espérer avoir des retours d'échantillons, mais là, on peut espérer qu'à l'échelle de quelques années, quelques dizaines d'années, on aura des dizaines, voire des centaines de candidats possibles de planètes un peu similaires à la Terre, et là, on aura une statistique relativement importante avec des observations dont on pourra parler plus tard, alors que sur Mars, on aura un cas très poussé, mais si on trouve pas de vie sur Mars, on pourra se dire, bon, bah d'accord, ça n'a pas marché sur Mars, ça a marché sur la Terre, on a deux cas qu'on a explorés en détail, ça donne pas une statistique énorme. Alors que les centaines de planètes extrasolaires qu'on pourra analyser nous donneront beaucoup plus d'informations. Donc il y a ces deux champs, il y a à l'intérieur du système solaire et à l'extérieur du système solaire.
Il y a deux voies parallèles. Sur Mars, on a déjà cherché la vie en réalité.
Alors oui, dans les années 70, il y a les Américains qui ont envoyé deux sondes, Viking 1 et Viking 2, et l'objectif de ces sondes, en particulier, c'était de voir s'il y avait de la vie. Alors ils avaient imaginé des expériences pour détecter de manière automatique de la vie. Alors on avait déjà des images de la surface de Mars, donc on savait qu'on n'allait pas prendre des photos de lapins en train de courir à la surface de Mars, donc il fallait plutôt chercher de la vie sous forme microscopique. Alors il n'y avait pas les moyens d'embarquer des grands microscopes sur les sondes Viking, donc on a cherché des techniques indirectes qui étaient assez originales, c'est-à-dire de se dire, si on veut détecter de la vie sur Mars, on va imaginer qu'il y a des bactéries dans le sol, on va leur donner à manger en leur donnant des molécules organiques, et sur ces molécules organiques on avait mis du carbone 14 qui a donc une signature un peu spécifique que les bactéries pourraient consommer, et ensuite il y avait des détecteurs spécifiques de ce type de carbone.
Elles devaient rejeter ce type de carbone,
c'est voilà, ça ? C'est ça, par exemple, nous, on mange des aliments enrichis en carbone 14, quand on va expirer du CO2, on va expirer du CO2 enrichi en carbone 14. Ou alors, si on passe au four, on va pas tenter l'expérience sur nous, mais si on mange des steaks enrichis en carbone 14 à longueur de journée, si après on passe au four, on va se dégrader en petites molécules comme du CO2, et du CO2 qui sera lui-même enrichi en carbone 14.
Donc c'est le traitement qu'on faisait passer aux petites bactéries, qu'on espérait voir.
Qu'on a infligé aux bactéries potentielles présentes à la surface de Mars.
Et alors, non, il n'y a rien eu.
Et alors c'est ça qui est étonnant, c'est qu'au début, tous les résultats étaient positifs. C'est-à-dire, on a trouvé du carbone 14 dans le CO2. Mais heureusement, il n'y avait pas que des expériences dédiées à la recherche de la vie, il y avait aussi des expériences qui étaient chargées d'analyser la composition de l'atmosphère, la composition des sols, et on s'est rendu compte que les sols étaient extrêmement oxydants. ce qu'on savait pas, on pouvait pas imaginer avant que le sol martien serait un environnement très très réactif. Et donc en laboratoire sur Terre, on s'est dit ben on va reproduire l'expérience avec un sol très oxydant. Et donc on a déposé de la nourriture entre guillemets pour bactéries sur un sol très oxydant et on s'est rendu compte qu'il se comportait comme s'il y avait des bactéries. Donc en fait, on n'a pas détecté de la vie grâce aux expériences de Vikings, on s'est juste trompé d'expérience à envoyer. C'est-à-dire que les expériences qu'on a envoyées n'étaient pas valables pour détecter de la vie bactérienne à la surface de Mars. Et ça qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire on pourrait se dire, bah voilà, c'est simple de détecter de la vie, il suffit d'envoyer les bonnes expériences. Oui, mais suivant l'environnement dans lequel on envoie les sondes spatiales, c'est pas les mêmes expériences qu'il va falloir réaliser suivant le type de vie qu'on cherche. Donc ça prouve la complexité de la chose.
Ça c'est intéressant parce que justement sur Mars on y est retourné, alors plus pour chercher la vie, mais par contre on y songe pour des futures missions. Donc aujourd'hui comment on poserait cette question, comment on tenterait de répondre à cette question de la vie sur Mars, quelles expériences embarquer sur les futures sondes pour détecter une vie éventuelle?
Alors oui, on y va maintenant par étapes. Donc les sondes qui sont parties dans la fin des années 90, dans les années 2000, suivaient un peu le motto de la NASA « Follow the water ». On va essayer de voir où il y a eu de l'eau à l'état liquide sur Mars et pendant quelle période. Donc pour ça, il y avait deux approches. Il y avait les petits rovers martiens qui exploraient de manière très locale. Ils sont à la surface depuis 2004, je crois. Ils ont parcouru à peine quelques kilomètres. Donc, ils n'ont pas fait énormément, mais ils ont analysé très en détail des régions de Mars. Et ils ont pu dire, ici, c'est des roches volcaniques. Ah, ici, on a des roches plutôt sédimentaires, des roches qui ne se forment qu'en présence de liquide. Donc, à un niveau très local, on sait qu'il y a eu de l'eau liquide dans ces régions. Et d'un autre côté, il y a des sondes qui sont en orbite et qui, cette fois-ci, n'ont pas le même degré de précision de quelques centimètres que peuvent avoir les rovers, mais qui font une cartographie globale de la surface de Mars et qui vont se dire, voilà, ici, ce sont des roches plutôt récentes, plutôt volcaniques, qui ne nous intéressent pas trop pour aller chercher de la vie. Et là, tiens, dans ces régions, on a des roches sédimentaires, des argiles, qui sont formés par dépôt de sédiments dans de l'eau en phase liquide sur de longues périodes. Et donc, c'est plutôt là qu'il faut chercher. Alors pourquoi c'est plutôt là qu'il faut chercher? Puis, en fait, ça vient du fait que sur Terre, on se dit que la vie est apparue, telle qu'on la connaît, parce qu'il y avait de l'eau liquide et de la matière organique. Et donc, pour chercher de la vie sur Mars, on prend le modèle terrien. Alors c'est peut-être une limitation, mais au moins ça nous donne un fil directeur. Il faut de l'eau liquide, il faut de la matière organique. Donc voilà, on a maintenant une cartographie de Mars avec l'endroit où il y a eu de l'eau liquide, quand il y a eu de l'eau liquide, et maintenant, eau liquide, matière organique, les prochaines missions vont chercher de la matière organique. Donc on avait des petits robots géologues ou des satellites géologues. Maintenant, on va envoyer des robots chimistes.
Alors qu'est-ce qu'ils font ces robots chimistes? Ils vont chercher quoi? J'ai vu que vous avez expliqué que l'expérience des Vikings n'était pas concluante. J'imagine qu'on ne va pas répéter ce genre d'expérience. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer par exemple dans la prochaine sonde de la NASA qui s'appelle Curiosity, qui part en 2011. Donc c'est une collaboration entre la NASA et l'Agence spatiale européenne. Il y a des laboratoires français qui participent, dont le LISA, le LATMOS, qui ont participé au développement d'un instrument qui va extraire du sol martien. Alors tout ça de manière automatique, donc c'est une véritable petite usine d'automates qu'on envoie sur Mars. On va prélever du sol, on va séparer la composante minérale de la composante organique, donc séparer les molécules organiques du sol, et ensuite on va analyser les molécules organiques par une technique qui s'appelle la chromatographie en phase gazeuse. Donc on envoie le mélange de composés organiques dans une longue colonne qui peut faire plusieurs dizaines de mètres, poussée par un gaz, et en fait chaque type de molécule sort au bout d'un temps différent de cette colonne, et donc on sait que au bout de 5 minutes 30 on voit quelque chose qui sort de la colonne, à partir de tests qu'on a fait au préalable sur Terre, on sait qu'à 5 minutes 30 c'est tel type de molécule, à 10 minutes 15 secondes on a une autre molécule, Ah, ça, on n'y a pas pensé. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, on peut faire des expériences au sol. Il y a aussi un spectromètre de masse, qui est un autre instrument qui est juste à la sortie de la colonne chromatographique, qui en fait casse la molécule en petits fragments, pèse ces fragments, et ça nous aide à reconstruire la molécule.
Donc, on cherche comme ça une analyse fine de la composition du sol.
Et en fonction des molécules qu'on va trouver, on se dira, bon, ça, ce sont des molécules qui sont présentes dans les météorites. Donc il y a des météorites qui tombent sur Terre, on sait qu'elles sont très riches en matière organique pour certaines. Il y en a qui sont aussi tombées sur Mars. Bah, si on trouve les mêmes molécules que celles qui sont dans les météorites, on ne va pas se dire c'est à cause de la vie, on va se dire bah, voilà, on détecte des molécules qui ont été apportées par des météorites. Si on détecte des molécules un peu plus inattendues, bah là, en fonction de des surprises qu'on aura, et bah, il faudra réfléchir et se dire est-ce que ce type de molécules peut-être synthétisé naturellement dans l'environnement martien, ou est-ce qu'il faut un procédé beaucoup plus sophistiqué qui pourrait être attaché à la présence d'une vie passée. Donc on va pas prendre des photos de bactéries ou de lapins martiens, on en est au stade de la chimie dans les zones où il y a eu de l'eau liquide, et on suit le postulat eau liquide plus matière organique égale vie. Mais un postulat qui a marché sur la Terre, et après, est-ce que ça marche à tous les coups? Est-ce que ça marche une fois sur deux, une fois sur 100, une fois sur 1 milliard, ou ça marchait juste une fois sur Terre dans tout l'univers? On n'a aucun moyen de fixer le curseur, d'où l'intérêt d'aller sur Mars. On aura un autre élément de statistique.
Alors, vous avez parlé de petits lapins, j'imagine qu'effectivement, on ne va pas chercher des petits lapins. En revanche, on va donc atterrir, si j'ai bien compris, sur des sites où il y avait de l'argile il y a très longtemps. Oui. Est-ce qu'on a complètement abandonné l'espoir de détecter une vie fossile, enfin des fossiles tout bêtement? C'est vraiment hors de question.
Il y a d'autres instruments qui vont faire de la microscopie à la recherche de formes qui pourraient être des fossiles. Mais alors là, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe sur Terre pour rechercher les plus anciennes traces de vie. Donc, on sait que la vie est apparue sur la Terre. Là, il n'y a pas de doute. Et pourtant, il y a dans le milieu des géologues qui travaillent sur ces questions, il y a beaucoup de débats, beaucoup de controverses concernant telle ou telle trace qui date de 3,5, 3,8 milliards d'années, qu'on pourrait rattacher de manière certaine à de la vie. Donc sur Terre, on a beaucoup de mal, parce que c'est très difficile. Donc ces fossiles auraient dû être conservés pendant plusieurs milliards d'années. Il faut être sûr que c'est pas de la contamination. Alors bon, sur Mars, si c'est contaminé par une vie plus récente martienne, c'est pas un problème, parce qu'on se pose la question de savoir si la vie est apparue ou pas. Sur Terre, la contamination est un problème, mais il y a aussi des formes qui, sur Terre, quand on voit ces structures, on se dit, ben oui, ça, c'est un fossile de bactéries. Mais dans certaines conditions, ça peut se produire de manière naturelle, de manière complètement abiotique. Et sur Mars, il faudra prouver que ça ne s'est pas produit de manière complètement abiotique. Et tout à l'heure, vous évoquiez cette fameuse météorite en 1996. Il y a même eu Bill Clinton qui a fait une annonce devant la presse disant, voilà, on a trouvé de la vie sur Mars. Et effectivement, quand on regarde cette météorite, quand on l'analyse, si on était dans un cas, on a trouvé un caillou sur Terre, on l'observe, on se poserait pas trop de questions, on se dirait, bah oui, ces formes, ces structures, ces dépôts de carbonate, voilà, ce sont des bactéries qui font ça, il n'y a pas de souci, il y a eu de la vie, il y a eu des colonies de bactéries dans cette roche. Ça poserait pas de problème sur Terre. Sur Mars, sur la météorite martienne, on voit ces formes, mais là, vu l'enjeu de la question, on peut pas se permettre de se dire, c'est évident. Il faut se dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'expliquer ces structures? Et il y en a des tas. Ouais. Et donc, la question se pose de savoir quels sont, en fait, les indicateurs univoques, indiscutables, qu'on pourrait avoir, qui nous permettraient de dire, voilà, il y a eu de la vie sur Mars. Alors, si on trouve un os de dinosaure ou un os de lapin, voilà, c'est relativement sophistiqué, personne ne contestera ça. Si on voit une petite forme un peu étrange, un truc sphérique, on se dira, ah oui, tiens, sur Terre, ce sont des bactéries qui fossilisent de cette manière-là. Mais ça peut se produire aussi de manière complètement abiotique. Et sur Mars, on restera cette incertitude.
Donc vous cherchez plusieurs faisceaux d'indices.
Voilà, il faut la stratégie, c'est d'avoir une multitude. Donc au niveau il faudrait qu'il y ait des molécules un peu bizarres, un peu inattendues. Il faudrait des formes aussi un petit peu élaborées, sophistiquées. Si on rentre dans les détails, il faudrait qu'il y ait des indicateurs isotopiques, c'est-à-dire chaque atome existe sous plusieurs formes. Quand on regarde la composition de protons, de neutrons. Donc qu'on appelle des enrichissements isotopiques qui sont pas spontanément explicables par des processus physico-chimiques simples. Il faudrait qu'il y ait ce faisceau d'indices, et donc c'est maintenant on envoie des robots qui essayent d'analyser toute cette diversité d'indices qui après pourraient nous permettre de conclure oui ou non. Mais c'est compliqué. Il n'y a pas de consensus dans la communauté scientifique qui permet de dire, voilà, c'est absolument ça qu'il faut. Parce qu'il y aura toujours forcément quelqu'un à côté, et heureusement, qui dira, bah non, attention, cette observation, on peut l'expliquer autrement. Et pour pas avoir de faux espoirs, on a besoin justement de ces gens qui sont très, à la limite très pessimistes, mais très, très rigoureux, et qui vont à chaque fois essayer de trouver des contre-exemples. Et pour rechercher de la vie sur Mars, c'est une tâche qui est loin d'être simple.
Alors, vous avez parlé d'eau plus de matière organique pour avoir la possibilité de la vie, au moins. Alors, l'eau, c'est quand même le problème sur Mars, qui est aujourd'hui une planète très sèche. Il y a d'autres endroits dans le système solaire où on évoque la possibilité d'une vie éventuelle. Je pense à Europe, où il y a des projets pour aller fouiller sous les glaces d'Europe, parce que là, on a beaucoup d'eau. Qu'est-ce qui fait qu'Europe est une cible aussi intéressante? Et je crois qu'on a même aussi parlé d'Encelade plus récemment.
Oui, alors, l'eau... C'est pas tant l'eau qui est un problème, parce que l'eau, la molécule O, H2O, c'est une des molécules les plus abondantes dans l'univers. Sauf que elle est très abondante sous forme de glace ou sous forme de gaz, mais à l'état liquide, c'est extrêmement rare, et il y a que sur Terre dont on soit sûr qu'il y ait de l'eau à l'état liquide en quantité et de façon stable sur de longues périodes. Sur Mars, maintenant, il y a des indices géologiques qui nous disent qu'il y a des roches qui ne se forment qu'en présence de liquide. Donc, en gros, c'est réglé, il y a eu de l'eau liquide sur Mars. Il y a d'autres objets du système solaire, donc par exemple Europe, qui est un satellite de Jupiter. Et alors, Europe, sa surface, c'est de la glace d'eau. Donc, il y a de l'eau sur Europe. Sauf qu'il y a plein d'observations plus ou moins directes grâce, par exemple, à la sonde Galileo qui est restée en orbite autour de Jupiter et de ses satellites dans les années 90. La manière dont Europe tourne sur elle-même, des espèces de petits champs magnétiques qui sont mesurés autour de la planète, plus des gens qui font des calculs sur la structure interne de ce corps, et tous ces faisceaux convergent vers l'idée que sous quelques kilomètres de glace, d'eau, de l'eau glacée, il y aurait une région où il y aurait de l'eau liquide, et c'est ça qui fait d'Europe un objet assez particulier. Et en fait, on dit Europe, il y a des modélisateurs qui pensent que sous les glaces de Callisto, Ganymède, qui sont deux autres gros satellites de Jupiter, on aurait aussi glace, eau liquide. Mais la particularité d'Europe, c'est qu'on aurait glace, eau liquide et puis le manteau rocheux, alors que sur les autres satellites, on aurait glace, eau liquide, glace et manteau rocheux. Et la particularité d'Europe, c'est d'avoir le contact entre l'eau liquide et le manteau rocheux. Et
ça, c'est important
pour un chimiste, oui, parce qu'on a des surfaces avec des roches qui peuvent catalyser des réactions. Et sur Terre, on s'est rendu compte aussi que au niveau des failles océaniques, au niveau de ce qu'on appelle les fumeurs noires, qui sont des petits volcans qui sont au fond des océans, quand on recrée les conditions chimiques qui ont lieu dans ces fumeurs noires, on a un environnement qui est très propice à faire des synthèses chimiques. Donc ça peut pas se passer sur Callisto, sur Ganymède, parce qu'il y a de la glace qui isole le liquide du manteau rocheux, mais sur Europe, alors on est qu'au stade d'imaginer ça, mais sur Europe, on peut imaginer que s'il y a encore une petite activité géologique, il puisse y avoir des fumeurs noires, et il puisse y avoir des réactions de synthèse chimique très intéressantes dans les océans d'Europe. Donc ça, c'est un objet particulier, mais voilà, pour l'instant, je vous ai dit, c'est un faisceau d'indices qui fait que la communauté scientifique est quasiment maintenant dans sa plus grande majorité persuadé qu'il y a bien cet océan sous les glaces d'Europe. Voilà, les étapes, c'est d'envoyer une mission avec un radar adapté qui permet de dire oui ou non, il y a bien de l'eau liquide. Et après, on voit souvent des illustrations sur Internet d'un petit robot qui fore les glaces d'Europe. Alors imaginez, hein, on n'est pas sûr, mais c'est une dizaine de kilomètres. Donc il faut forer 10 kilomètres de glace et ensuite se retrouver dans de l'eau liquide. Qu'est-ce qu'on y fait? Quels instruments on embarque? Faut envoyer les données. Donc il faut sans doute que ce petit sous-marin soit relié par un câble à la surface pour transmettre les données. Faut que les 10 km de glace se referment pas et broient pas complètement le câble de transmission de données. Donc on est face à des
années de travail pour les ingénieurs là.
Oui, mais c'est fascinant les challenges. Donc c'est pas demain qu'on va le faire, mais il y a déjà des gens qui réfléchissent à ça. Et c'est vrai que c'est pas idiot de se dire qu'un jour on aura peut-être des images des océans d'Europe. En tout cas, moi j'attends ça avec impatience.